en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Peu après l'élection du cardinal Ratzinger, qui devint pape sous le nom de Benoît XVI, c'était le 19 avril 2006, la Fondation Saint-Gé-Polignac à Paris organisait un colloque regroupant plusieurs historiens et personnalités religieuses qui se penchaient justement sur le parcours de ce cardinal devenu pape. Ce colloque, en date du 7 juin 2006, fut présidé conjointement par M. Laurent Stefanini, conseiller pour les affaires religieuses près le ministère français des Affaires étrangères, et par le cardinal Roger Etchegaray, membre de l'Institut de l'Académie des sciences morales et politiques. Rappelons que le cardinal Ratzinger était également membre de l'Institut puisqu'il était associé étranger de l'Académie des sciences morales et politiques depuis le 13 janvier 1992, élu au fauteuil précédemment occupé par Andrei Sakharov. Ce colloque à la Fondation Saint-Gé-Polignac a permis d'aborder diverses questions autour du cardinal Ratzinger Benoît XVI, la théologie, la liturgie, l'Europe, la curie romaine, les médias, mais aussi la diplomatie, l'unité des chrétiens et les relations interconfessionnelles. Canal Academy vous propose d'écouter maintenant l'intervention de Hervé Yanou, correspondant du journal Le Figaro auprès du Saint-Siège. Son intervention s'intitulait « Le geste et la parole, Benoît XVI et les médias ».
Le pape Benoît XVI a entamé son pontificat dans un monde où les médias sont omniprésents et omnipotents, et où leur technologie est en développement constant. Pape admiré tout autant que controversé, Jean-Paul II avait réussi à incarner sur leurs objectifs et à sa manière la religion, la foi et la morale, l'Église et le catholicisme. Alors comment ? Par un exercice très personnel et surtout très personnalisé et ostentatoire de la papauté et par la véritable culte de la personnalité qui l'a suscité. Dans une période difficile pour l'Église catholique, Károly Wojtyła a été le pape de l'ère médiatique. Il a voulu être le pape pensé et conçu comme le pasteur universel. Premier pape de la mondialisation, il a été le pasteur du village global. Tout au long de ses 26 ans de pontificat, Jean-Paul II a su s'appuyer sur son charisme pour occuper le devant de la scène médiatique mondiale, ponctuant son règne d'initiatives historiques et de grandes images symboliques que les médias et l'histoire immédiate ont retenues. Ses 204 voyages et les journées mondiales de la jeunesse en sont le plus parfait exemple. C'est là que résidait la stratégie wojtylienne, créer l'événement planétaire, mobiliser les foules et les médias et ainsi donner le sentiment du grand dynamisme catholique. Il a su, plus qu'aucun autre de sa génération, se transformer en leader d'opinion, en un tribun, parvenant à réunir autour de lui jusqu'à 4 millions de personnes à Manille en 1994. Ces derniers jours furent à l'image de cette communication. Rarement, en effet, le Saint-Siège n'aura bénéficié d'une couverture médiatique aussi globale et générale. Ce coucher du soleil invitait donc à une réflexion sur le lourd héritage médiatique. Son successeur pouvait-il faire l'économie d'une papauté surmédiatisée, descendue de son piédestal et désormais accessible à tous ? Saurait-il prolonger l'empathie suscitée par son prédécesseur, alors que, comme le dit Régis Debré, les hommes d'aujourd'hui produisent du transcendant dès qu'ils doivent produire du lien ? Cette question incontournable a servi de prisme de lecture au premier mois du pontificat de Benoît XVI. Benoît XVI n'a pas commis l'erreur, évidemment, de copier son prédécesseur, et il l'a déconcerté. Contrairement à Jean-Paul II, un acteur devenu pape qui savait jouer avec les objectifs et les caméras, Benoît XVI est un professeur posé, un pape statique, voire hiératique, mais qui sait diffuser des messages empreints d'intelligence, et de clarté. Alors, la question est de savoir si le verbe peut l'emporter sur l'image que façonne la culture d'aujourd'hui et en particulier la culture médiatique. En effet, cette dernière se construit autour d'un héros et d'un récit, des acteurs et des intrigues, alors que Benoît XVI a mis le holà au papocentrisme en recentrant l'image de la papauté sur l'Église, son enseignement et son fondateur, le Christ. Il veut une papauté au concours plus modeste et un exercice de sa charge plus discrète, on dit parfois à l'ancienne. Faut-il alors considérer le règne de Károly Wojtyła comme une parenthèse dans l'histoire de la médiatisation de la papauté, un âge d'or de la presse à laquelle succédera un âge de fer. Les images fortes vont-elles se faire plus rares et le risque d'une disette visuelle ne risque-t-il pas de diluer le message de l'Église que l'Église peut transmettre au monde? En résumé, un pape intellectuel mais pédagogue peut-il dialoguer avec une société sécularisée, souvent indifférente à la religion, pardon, ou qui en a plus exactement une vision très anthropologique? Alors, il faut d'abord dire qu'entre l'Église et les médias, il y a un grand malentendu. En la matière, tout comme pour l'ensemble de son pontificat, et on l'a déjà dit ce matin, le pape veut être un pasteur à la fois doux et ferme. Je crois que c'est la ligne directrice de, pour beaucoup de choses, c'est Benoît XVI. L'Église est bien consciente de l'importance des médias, mais et depuis les encouragements du Concile Vatican II, à travers le décret Inter Mirificat du 4 décembre 1963. Le Concile Vatican II fut un tournant historique de l'information religieuse et de celle du Saint-Siège avec la création de la salle de presse. Jusque-là, l'Église temporelle pensait transcender l'actualité. Il n'en demeure pas moins que l'Église n'est pas politique et qu'elle reste marquée par la culture du secret, qui, pour les journalistes, apparaît bien souvent comme une hypocrisie. Pour la curie romaine, l'information, fût-elle exacte, demeure encore indiscrétion et rabaisse le sacré au niveau de la nouvelle. Monseigneur Renato Boccardo, ancien secrétaire du Conseil pontifical pour les communications sociales et actuel secrétaire général du gouvernorat de la Cité du Vatican, reconnaissait ainsi en février 2005 les réticences culturelles et le manque de confiance réciproque du Vatican à communiquer. Le Saint-Siège joue, disait-il, de son droit de réserve et de l'équilibre entre ce fameux secret et l'information. Une source de nombreuses perturbations et surtout de malentendus, pas toujours assumés, qui implique une tension continuelle avec les médias pour qui l'événement doit faire la nouvelle. Cette absence de transparence de l'information, propre cependant, il faut le souligner, à tous les gouvernements, est une source traditionnelle de frustration pour la presse qui aime comparer les murs du Kremlin, du Vatican, à ceux du Kremlin, évidemment. Les journalistes n'appartenant pas au petit groupe restreint de ceux qui travaillent quotidiennement et exclusivement sur le Saint-Siège, ce qu'on appelle les vaticanistes, bien que la définition ne soit pas toujours très exacte, s'étonnent toujours ou souvent de la forme des conférences de presse organisées par le Saint-Siège et de la difficulté à obtenir une déclaration, un commentaire, voire un entretien. Mais au Vatican, les règles du jeu sont différentes des méthodes apprises dans les écoles de journalisme démocratique. Mais on y parle beaucoup. De façon informelle et souvent inattendue, les informations arrivent sous la forme de confidences qui peuvent être vérifiées ou non. Tout est question de réseau, de bon sens et de pratiques déductives. L'information recueillie ne doit pas toujours créer l'événement, et donc la nouvelle, mais être récoltée. L'informateur privilégié existe, il est d'autant plus préservé par ceux qu'il renseigne. Ainsi, peu de faits bruts sont livrés à l'information et rarement sourcés. Au Vatican, tout le monde joue le jeu et les portes ne sont jamais véritablement closes aux journalistes, à moins que celui-ci ne désespère. Le Saint-Siège oppose ainsi à l'instant immédiat de la presse le temps long de son histoire. Alors pour le pape, il y a une méfiance réciproque mais un dialogue fructueux avec la presse. Contrairement aux dirigeants des démocraties ou aux princes héritiers des monarchies héréditaires, les papes, avant d'arriver au pouvoir, ne sont pas traditionnellement formés au difficile exercice de la presse et de la communication. Paul VI avait des liens avec le journalisme et il ouvrit une brèche en donnant à l'issue du concile une interview et en invitant les chefs de dicastère à en faire de même. Jean-Paul II, quant à lui, fut lui-même journaliste et n'avait, contrairement à beaucoup d'hommes d'Église, pas peur de ses anciens collègues ni des médias. Benoît XVI non plus, mais dans un style bien différent. En effet, la naissance médiatique de Joseph Ratzinger, contrairement peut-être à celle de Jean-Paul II, ne date pas du 19 avril 2005 et de sa première apparition à la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre. Avant son élection, le cardinal Ratzinger était déjà une grande figure médiatique. C'est à la fois un atout et un handicap. Il s'était exprimé à travers les documents de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui sont principalement destinés à l'Église elle-même. Il avait aussi de nombreuses conférences dans le monde entier, sans oublier ses plus de 40 ouvrages, dont 24 traduits en français. Dans une perspective plus large, il a souvent utilisé interviews dans la presse écrite pour communiquer ses points de vue sur la vie de l'Église et son enseignement doctrinal. Cette activité médiatique et le feu des projecteurs sur le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, de plus en plus important au fur et à mesure que Jean-Paul II s'affaiblissait, ont joué sans doute un rôle non négligeable dans son statut de papabile, c'est-à-dire de successeur possible, dans son élection et dans l'appréciation surtout de celle-ci. La période « sede vacante » qu'il a conduite en tant que doyen du Sacré Collège lui a permis d'exposer devant les caméras du monde entier des éléments de son projet pour l'Église du XXIe siècle. Ainsi, le cardinal Joseph Ratzinger, préfet du Saint-Office, dessiné et croqué par les médias, a précédé Benoît XVI et ses premiers pas ont été lus à travers le prisme d'une réputation forgée par cette presse. Celle, bien sûr, du fameux Panzer cardinal ou du chien de garde de la foi. La presse internationale a ainsi globalement, fraîchement reçu le successeur de Jean-Paul II, qui, lui, a été une icône portée au pinacle par des hommages quasi unanimes. En Allemagne, tout d'abord, je vais vous donner quelques exemples. Le Tageszeitung, journal de gauche, certes volontiers polémique, a ainsi tiré sa une du 20 avril, le lendemain de l'élection, entièrement en noir, avec le titre « Joseph Ratzinger, nouveau pape, oh mon Dieu ». Le quotidien conservateur Die Welt condamnait bien sûr ces clichés, mais le Süd Deutsche Zeitung soulignait que c'était un conservateur avec lequel on peut avoir des frictions, mais ce n'est en aucun cas un réactionnaire. La presse italienne n'était pas en reste. Le quotidien communiste indépendant Il Manifesto, et je le cite parce que ce titre a fait le tour de la planète, a été bien sûr le plus acide en titrant sur le jeu de mots « Il pastore tedesco », le pasteur allemand, le berger allemand. La Repubblica évoquait quant à elle le cardinal de fer. La Stampa annonçait pourtant les surprises et titrait, elle, sur la rigueur et l'humour qui sont les deux âmes du nouveau pape. En Pologne, pays de Jean-Paul II, la Tribuna tirait sur le pape cuirassé. Dans la presse espagnole, Il Mundo, se disait déçu du conclave et Il Periodico parlait d'hiver idéologique et d'élection de l'aile droite du Saint-Esprit. En Angleterre, où la presse se porte très bien, le Sun, qui est le plus vendu, titrait des jeunesses hitlériennes à paparazzi et publiait en médaillon la photo du jeune Joseph Ratzinger en 1943 en uniforme des armes anti-aériennes. Même ton au Daily Mirror et au Daily Telegraph qui titraient tous les deux sur le Rottweiler de Dieu. À Genève, la Tribune de Genève parlait de l'homme qui dit non. La presse russe estimait quant à elle que, désormais, l'orthodoxie allait contre les orthodoxes. En France, Libération titrait sur le pape à réaction. Mais le sommet médiatique a été atteint par les guignols de la faux, la chaîne privée de Canal+, cette émission qui, le 20 avril, le lendemain de l'élection, présenta dans un sketch le pape en nouvel Hitler, baptisé Adolphe II. C'était la première fois que l'émission satirique faisait l'objet d'une mise en demeure, le 10 mai, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Michael Novak, qui est l'expert de l'American Enterprise Institute, dans une tribune publiée par le Washington Post le surlendemain, s'insurgeait contre cet accueil glacial. S'il estimait que la question n'était pas de plaire, le pape devait rester fidèle aux convictions justement dénoncées par la presse. Quant aux Français, ils ont estimé en février dernier, à 60%, selon un sondage Sofres, Lacroix, Le Point, que les médias avaient parlé comme il faut de l'élection de Benoît XVI. Le pape n'en a pas moins une très grande sensibilité pour le monde des médias et y est extrêmement attentif. Son secrétariat épluche quotidiennement la presse internationale et, les connaissant bien, il en connaît aussi bien sûr les limites, nous venons de le voir. Il sait qu'il doit réussir à instaurer une certaine complicité entre eux et lui, établir au moins un gentleman agreement, car le pape, comme la presse, a pour devoir de communiquer. Mais c'est là que se pose peut-être la question. Benoît XVI veut revenir à l'enseignement des permanences de l'Église, alors que pour les médias, il faut créer la nouveauté qui est la source de l'événement médiatique. Car Ruvolkila avait réussi en devenant le Jean-Paul II superstar, comme l'on dit, des médias. Ainsi, à la Curie, au moment de l'élection, nombreux sont ceux qui pensaient que le précédent pontificat a été trop exposé au public et aux médias. Le pape et donc l'Église gagneraient à être moins sous le feu des projecteurs, à être plus discret donc, mais sans pour autant négliger les occasions exceptionnelles qui marquent la solennité et réaffirment le sacré propre à toute institution religieuse. Benoît XVI a donc instauré un nouveau rapport entre lui et la presse, plus distant et réservé, plus pontifical mais essentiel et principal. Le premier exemple en est sans doute l'audience qu'il accorda à la presse, emboîtant le pas en Jean-Paul II. La seconde audience officielle de son pontificat a été accordée aux journalistes le 25 avril 2005. La salle Paul VI était comble et en délire. Mais le pape, contrairement à ce qu'espéraient les journalistes, ne s'offrit pas de bain de foule. Il entra directement sur le podium de la salle, salua, puis se dirigea vers son trône et finit par demander le silence pour lire son discours. Il remercia alors les journalistes au nom des catholiques pour leur travail qu'ils avaient fait durant des semaines, grâce auxquelles le monde entier était resté fixé sur la basilique Saint-Pierre, la place et les palais apostoliques. Ces événements ecclésiaux, disait le pape, d'une importance historique, ont eu également par vos mérites une couverture mondiale. Et pour les catholiques de nombreux pays, très distants de Rome, elle a été le moyen, un lien de foi émouvant et en temps réel pour tous ces catholiques. Le décor était donc planté. Les médias sont un moyen d'évangélisation, extraordinaire, mais aussi pervers. Benoît XVI reprenait la dernière lettre apostolique de Jean-Paul II sur les médias, publiée le 24 janvier 2005, et souhaitait donc un dialogue fructueux avec eux, soulignant que le développement actuel des communications sociales pousse l'Église à une sorte de révision pastorale et culturelle permettant de faire face aux changements d'époque. Enfin, le pape rappelait la nécessité d'un sens de la responsabilité et d'une compréhension des perspectives et des responsabilités que le développement des médias comporte. Les deux maîtres mots étaient éthique et vérité. Le pape concluait son audience par la prière du Notre Père, à la stupéfaction quasi générale, puis se retirait sous les applaudissements. Déception. Contrairement à Jean-Paul II en 1978, Benoît XVI n'était pas descendu dans l'arène pour répondre à quelques questions, créant ainsi lui-même le scoop tant recherché. Il avait exposé aux journalistes qu'il attendait d'eux une collaboration bien comprise. Benoît XVI va ainsi montrer qu'il a moins confiance dans les médias et tient à maîtriser parfaitement ses paroles et son image, alors que son prédécesseur abandonnait plus facilement ses propos durant des conférences de presse improvisées. Benoît XVI choisit donc d'accorder une interview à Radio Vatican pour les Journées mondiales de la jeunesse et répondre à quelques questions de la radio du pape, de sa propre radio, lors de la visite des locaux de cette antenne pour son 75e anniversaire. Il a aussi réalisé une première en accordant un entretien télévisé largement préparé à la télévision polonaise à l'occasion de l'anniversaire de l'élection de son prédécesseur. Il a alors lui-même annoncé son voyage en Pologne en mai 2006. Le pape ne sort que très rarement des cadres du protocole. Dans l'avion qui le conduit à Cologne pour son premier voyage international en août 2005, il vient certes s'adresser aux journalistes, habitués aux conférences, comme je vous l'ai dit, de presse improvisée par son prédécesseur qui traversait le rang réservé à la presse et accordait une question à chacun d'entre eux quand il le pouvait. Il va leur livrer quelques phrases, mais des phrases qui sont contenues dans le discours qu'il prononcera quelques heures plus tard. Alors qu'un journaliste lui tend un micro, habitué, pour une première question, Joaquín Navarro-Valls, le directeur de la salle de presse, de Jean-Paul II, lui indique qu'il est désormais temps de décoller. Le pape rejoint alors sa place. Cependant, il faut le souligner, lors du second voyage qui le conduit vers la Pologne il y a quelques semaines, après un mot de bienvenue, il a répondu à trois courtes questions qui lui ont été posées, posant ainsi lui-même la première grille de lecture pour sa visite au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Si Jean-Paul II avait brisé le protocole qui veut, tout comme pour les souverains britanniques, qu'on ne pose pas de questions au pape, l'entourage de Benoît XVI a en toute apparence l'intention de le réinstaurer. Les contrevenants sont fermement rappelés à l'ordre. Le pape l'a parfaitement expliqué lors de l'Angélus du 8 mai 2005 à l'occasion de la Journée mondiale des communications sociales. Il est nécessaire que chacun joue son rôle pour assurer, dans toute forme de communication, l'objectivité, le respect et la dignité humaine et l'attention au bien commun. Il existe malgré tout un jeu entre le pape et la presse. Il décide ainsi parfois de lui répondre directement en décidant de commenter lui-même ses propres textes et ses décisions lors des audiences générales. Il a par exemple annoncé la publication et commenté sa première encyclique Deus Caritas Est lors de l'audience générale du 18 janvier 2006 et ainsi mis un point final aux rumeurs de la presse sur le retard accumulé par la publication du texte. Il a fait de même pour l'annonce de son premier consistoire lors de l'audience du 22 février 2006. Benoît XVI n'a pas choisi, contrairement à son prédécesseur, de faire ses annonces médiatiques au cours de la prière publique de l'Angélus dominical. Devant une foule distante sur la place Saint-Pierre, mais devant un public choisi, celui des fidèles qui ont fait la démarche plus exigeante et contraignante de venir l'écouter le mercredi. Là encore, Benoît XVI entend maîtriser sa communication. Tout d'abord, il ne semble pas qu'il ait l'intention de s'injoindre, entre guillemets, un porte-parole. Jean-Paul II avait fait appel en 1984 à Joaquín Navarro-Valls, médecin, espagnol, journaliste et membre de l'Opus Dei, pour organiser ses services de presse et en particulier la salle de presse du Saint-Siège, par laquelle transite désormais la quasi-totalité des informations relatives au Saint-Siège et au Saint-Père. Ce proche de Jean-Paul II avait été qualifié de « porte-parole » entre guillemets par ses collègues journalistes pour ses déclarations à la presse qu'il prenait parfois par-devers lui. Un titre propre, ce titre de porte-parole, aux institutions démocratiques, mais qui n'a jamais existé à ma connaissance et n'existe toujours pas officiellement dans l'organigramme de la Curie. Après l'élection de Benoît XVI, le rôle de la salle de presse et de son directeur ont été tacitement redimensionnés sous la houlette de la secrétaire d'État, et le rôle moins prestigieux accordé à son chef et au chef de cette administration du Saint-Siège semble poser quelques difficultés pour le recrutement d'un nouveau titulaire. Il est bien possible aussi que Benoît XVI, toujours pour être maître de cette communication, décide dans cette réforme de la Curie attendue de fondre une bonne partie des différents moyens de communication du Saint-Siège, de l'Osservatore Romano, au service de la salle de presse, en passant par les services audiovisuels. Ensuite, devant l'immense production littéraire du pape, avant et après son élection, le cardinal secrétaire d'État a décidé, par le décret du 31 mai 2005, tout comme pour Jean-Paul II, d'instaurer un strict monopole de la librairie éditrice du Vatican sur les écrits du pape, ses droits d'auteur et leur gestion internationale. Le succès en librairie des rééditions des œuvres de Joseph Ratzinger après son élection semblait appeler cette mesure. Rien qu'aux États-Unis, la maison Ignatius Press, qui est son éditeur depuis 25 ans, avait réimprimé à 300 000 exemplaires dès le 22 avril les œuvres principales du cardinal. Un incident a vite montré que cette décision n'était pas qu'administrative, mais suivie des faits. Le 23 janvier, la librairie éditrice Vatican a ainsi fermement rappelé son droit au copyright sur les œuvres du pape. La librairie a demandé 15 000 euros à la maison éditrice milanaise Baldini Castoldi pour le dictionnaire du pape Ratzinger. Et sa plainte sur le fait que l'introduction du livre stipulait, je cite, « que tout ce que vous trouverez du début à la fin de ce livre appartient à la plume ou à la voix de Joseph Ratzinger, par conséquent au Saint-Siège ». Tollé dans la presse cisalpine, la Stampa accusa le Vatican de vouloir terroriser les éditeurs. Ceux du cardinal Ratzinger avaient d'ailleurs été convoqués au Vatican du 13 au 16 décembre pour traiter de cette question difficile de la perte progressive des bénéfices que pouvait leur apporter la signature de Joseph Ratzinger. Et la Stampa accusait le Saint-Siège de vouloir bloquer la circulation du message pontifical en le mettant sous la coupe de l'économie. Les paroles de Benoît XVI n'appartiennent donc pas directement au domaine public. Le 2 septembre 2005, Radio Vatican recevait aussi l'exercice de la tutelle de tous ses droits d'auteur sur les enregistrements de sa voix, avant et après son élection. Enfin, si un monopole n'a pas été instauré sur les images du pape, une grande partie de leur gestion revient au service photographique de l'Osservatore Romano, seule habilité à photographier le souverain pontife à toute occasion. Quant aux images télévisuelles, le centre de télévision du Vatican, en accord avec la RAI, a aussi le monopole de filmer toutes les grandes cérémonies romaines, de diffuser ou de sous-traiter ces images. Il n'y a pas d'autres caméras sur la place Saint-Pierre autorisées lors des cérémonies romaines. Par ailleurs, Benoît XVI est proche de certains médias et les privilégie. On peut citer entre autres la famille polynienne, qui est particulièrement bien traitée par le pape. Cette institution religieuse italienne, d'hommes et de femmes, est essentiellement tournée sur les médias et les communications sociales. Elle publie le grand hebdomadaire familial chrétien italien, Familia Cristiana, possède de nombreuses librairies en Italie, la maison d'édition San Paolo, et réalise du matériel audiovisuel. Le pape apprécie chez eux, comme il leur a dit lors d'une audience à Côté en octobre, leur présence éducative au service de la communauté chrétienne. Rien de tel, donc, pour inviter le pape à les autoriser à publier son encyclique à 1 million d'exemplaires le jour même de sa publication. Un coût, selon les médias italiens, qui avait dû être renvoyé à cause du retard accumulé de la publication du texte. Ce qui n'empêcha pas le pape d'écrire lui-même et de façon inédite une lettre aux lecteurs de Familia Cristiana pour leur donner une lecture pédagogique de son encyclique qui lui fut offert dans le numéro du 5 février. Enfin, le pape ne néglige pas non plus, évidemment, son image. Benoît XVI a repris la tradition des voyages pontificaux, instaurés par Paul VI et largement, évidemment, amplifiés par Jean-Paul II. Et il a sans doute l'intention d'en limiter la durée et le nombre, mais surtout pas d'y renoncer. Ceux de 2006, vous les connaissez, Pologne, Espagne en juillet, la Bavière en septembre et Constantinople-Istanbul en novembre. En 2007, sans doute, le Brésil. Et ensuite, en 2008, le Québec et l'Australie. Ce calendrier, en ce qui concerne du moins l'année 2006, est consciemment ou inconsciemment rythmé. On voit ainsi que ces déplacements internationaux interviennent tous les 2 ou 3 mois après les grandes fêtes de Pâques et de Noël, qui voient évidemment et obligatoirement les médias se tourner vers Rome. Les dates du voyage en Pologne ont ainsi été déplacées pour que la Coupe du monde de football en Allemagne ne vienne pas interférer sur le déplacement du pape. Ces voyages peuvent aussi ainsi offrir des images fortes, comme celle d'un pape allemand à la synagogue de Cologne en août 2005, ou bien sûr celle du Benoît XVI au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau le 28 mai dernier. Ces images, immédiatement reprises par la presse, permettent à la papauté d'être présente régulièrement dans les médias généralistes, le risque étant que le contenu spirituel même du voyage soit occulté par ces images sensationnelles. La clé du succès de Benoît XVI réside en fait, je pense, et on en a déjà parlé, sur le fait que le pape est un pape pédagogue qui mériterait peut-être d'être appelé Benoît le pédagogue. La communication de Benoît XVI passe avant tout par son intelligence et son esprit universitaire, prompt à l'improvisation. Dans sa première année de règne, Benoît XVI a fait moins de discours de Jean-Paul II. En un an, il a ainsi prononcé 291 discours contre 569 pour son prédécesseur sur la même période. S'il ne rassasie pas quotidiennement les médias généraux, il a battu tous les records de popularité. Le pape charme les foules, indubitablement. 2 millions de fidèles en Pologne, 50 000 personnes à l'audience hebdomadaire du mercredi, pour être autrefois un événement quasi extraordinaire, ne font plus partie des données exceptionnelles. Benoît XVI, comme on dit, fait place comble. Il est un pape extrêmement populaire. Certes, le pèlerinage sur la tombe de Jean-Paul II, les images vues sur toutes les télévisions du globe de la place Saint-Pierre lors des funérailles de Károly Wojtyla, ont fait de la basilique et de la colonne du Berlin ce qu'on pourrait appeler des pièces du musée imaginaire des citoyens du monde et renforcé le rôle incontournable du Vatican dans le circuit touristique romain. Ainsi, on constate désormais que les tours opérateurs calent leur visite de Saint-Pierre le dimanche, afin que, pour les néophytes, la visite se termine par le clou du spectacle, l'apparition du pape à sa fenêtre pour la prière de l'Ingidus. Ainsi, l'effet de curiosité et de nouveauté n'est certes pas à négliger. Mais ce que les responsables de la basilique appellent la qualité des pèlerins n'est pas totalement à remettre en cause. Le pape retient l'attention. C'est ce que Joachim Navarro-Valls appelle la pastorale de l'intelligence, la succession d'un pape théologien, un pape philosophe, selon le Wall Street Journal. Si l'ancien professeur a la volonté de produire moins de textes et de discours que son prédécesseur, il veut, par la clarté de ses propos, élever son auditoire vers le haut. Lors des JMJ de Cologne, un journal allemand titrait ainsi sur « l'académicien que l'on comprend ». Le pape enseigne à la foule de sa voix légèrement flûtée. Il se laisse simplement parfois interrompre par des applaudissements, on en a parlé tout à l'heure, mais rappelle vite son auditoire à l'attention. Une exigence qui enthousiasme et galvanise. Le poids des mots est ici fondamental. Certes, le pape, comme tous les dirigeants du monde, n'a pas la possibilité de rédiger l'ensemble de ses discours et interventions. Il les écrit soit en allemand, soit directement en italien. Il n'écrit pas, certes, tous ses textes, mais il les relit et les corrige tous avant de les prononcer en public. Différentes équipes, plus ou moins formelles, au sein du Saint-Siège, sont chargées de le travailler selon les instructions qu'il a données. La secrétaire d'État se charge des discours diplomatiques. Ceux aux nations sont rédigés par des prélats qui ont dans leur ressort des géographiques des pays considérés et avec l'aide des conférences épiscopales locales et des rapports des évêques en visite ad limina apostolorum. Mais le pape se réserve surtout strictement les homélies des grandes fêtes religieuses. En effet, il a placé au cœur de son enseignement la mystagogie, les mystères de la foi, et comme saint Augustin, l'apologétique. Dans ses textes, chaque expression est pesée. À un pape slave et poète, comme Jean-Paul II, c'est un universitaire allemand qui lui a succédé. Le pape professeur manie l'art de la dissertation, il est resté marqué par ses années de formation au séminaire et celle de professeur en Allemagne. Allergique dans ses années de formation à la néoscolastique et au néotomisme, qui donnaient alors pourtant les facultés romaines, pour lui, il lui semblait des barrières intellectuelles. Il n'a jamais aimé l'abstraction. Ces leçons, je cite, étaient préparées au millimètre. Elles étaient préparées avec des formules qui semblaient construire une mosaïque, avec une richesse d'images qui me rappelait Romano Guardini. Dans toutes ces leçons, comme lors des pauses d'un concerto, on aurait pu entendre une aiguille tomber par terre. Témoigne le religieux rédemptoriste Victor Hahn, le premier doctorant du professeur Ratzinger. marqué par son professeur de théologie fondamentale de Freising, Gottlieb Söngen, qui parlait quasi sans notes. Le pape n'aime pas la théologie conceptuelle. Admirateur d'Henri de Lubac, il tient de ce théologien français le retour au père de l'Église. Ainsi, ses homélies sont des démonstrations parfaitement construites, on pourrait dire scolaires. Sa démarche est progressive, toujours résumée en fin de paragraphe, et si la méandre de la pensée du pape slave pouvait parfois sembler difficile à un esprit cartésien, Benoît XVI est donc un pédagogue qui conduit dans une logique implacable son auditeur à une conclusion simple et claire, malgré la difficulté du concept. Il parsème ses textes de liens pédagogiques pour aider son auditoire, comme pour mieux comprendre cette parole, pour nous résumer, ou etc. Ainsi, il chemine, il avance. Et il sait aussi glisser des paroles choc dans ses discours, qui sont là le régal de la presse, en parlant par exemple du crime inouï de la Shoah lors de son passage à la synagogue de Cologne. Il veut amener le fidèle à mieux comprendre sa foi. Exégèse d'un texte biblique, explication du baptême, du sens de la communion, à l'analyse du principe pétrinien, le pape ne fait pas de discours, mais bien des homélies. Je m'explique. Il communique avant tout sur le contenu de la foi. Le pape ne rentre pas dans une logique de l'actualité. Malgré la pression internationale, il ne viendra pas détourner l'attention de l'essentiel de la tradition et du message chrétien. L'évangile n'est pas un prétexte pour aborder tel ou tel point. Il est au cœur du propos de Benoît XVI. Ainsi, le pape n'aborde pas une question diplomatique ou politique lors d'une célébration du calendrier liturgique. Par exemple, pour l'anniversaire du 40e anniversaire du Concile Vatican II, célébré le jour de l'Immaculée Conception, il ne s'est pas départi de ce dernier thème, parfois plongeant les journalistes dans le trouble parce qu'ils avaient annoncé à tout le monde des papiers entiers sur le Concile Vatican II. Il a fallu attendre ses vœux à la Curie romaine, quelques semaines plus tard, pour qu'il dresse un bilan de l'enseignement du Concile. On pourrait lui attribuer la phrase du philosophe catholique Kierkegaard « Le christianisme, ce n'est pas une doctrine, mais une vie qui se communique. » Ainsi, les cérémonies pontificales, on l'a vu, sont désormais plus austères, plus sobres, au désespoir des caméramans et des photographes de presse qui n'ont pas beaucoup de possibilités de varier les angles de vue sur un pape quasi immobile. S'il célèbre, il n'est pas au cœur de la célébration. Benoît XVI a toujours été marqué par la phrase du cardinal Newman dans sa lettre au duc de Norfolk. « Certes, si je devais porter un toast à la religion après un repas, chose assez peu indiquée, je boirais à la santé du pape. Mais d'abord à la santé de la conscience et ensuite à celle du pape. » Pour Joseph Ratzinger, qui a lu le philosophe personnaliste juif Martin Buber, le meilleur discours sur Dieu, c'est celui de lui rendre grâce. Enfin, le pape est un rhéteur qui aime la disputatio, la dispute, exercice universitaire par excellence. C'est sans doute pourquoi il apprécie autant l'improvisation, l'instaurant en nouveau mode de communication. Il a introduit la pratique du discours sous forme de questions-réponses, de quasi-maïotique. Si elles sont publiques, les questions de cet exercice sont préparées et distribuées à la presse, mais les réponses du pape, jamais. Benoît XVI a inauguré cette pratique en juillet 2005 en rencontrant en huis clos le clergé du Val d'Aoste. Elle a été reprise pour les jeunes romains préparant les premières communions et prolongée avec les prêtres du diocèse de Rome en avril et les jeunes des JMJ au niveau diocésain, devant qui il a évoqué sa propre vocation au temps du nazisme. Mais il ne faut pas s'y tromper. Cet enseignement n'aurait pas l'impact qu'il peut avoir sans le rôle de relais immédiat des médias. Les discours du pape prononcés le plus souvent en italien, voire en latin, ne sont pas immédiatement compréhensibles par l'ensemble de l'auditoire. Le rôle des médias et des modes de communication modernes comme l'Internet est donc plus que jamais nécessaire pour transmettre dans le temps le plus bref le contenu du message pontifical. Pour conclure, il faut rappeler que la communication dans l'Église est avant tout la transmission d'une tradition. Elle se veut prophétique. Benoît XVI, qui connaît bien les médias, et a su instaurer donc un nouveau rapport avec eux, ne veut plus d'une éternelle actualité du pape. Son objectif est que l'éternelle actualité de Dieu soit la nouvelle et que l'évangile vécu soit source d'événements. C'est le pari difficile de son pontificat. Les médias catholiques et confessionnels sont prêts à relayer ce message. C'est là leur vocation. Mais pas ceux d'information générale pour qui l'Église catholique relève du « entre guillemets fait religieux » en général, qui aime avant tout la polémique et relègue souvent le pape au rang des people. Une anecdote peut traduire ces propos, elle m'a été rapportée par quelqu'un qui se trouve dans la salle. Le 19 avril 2006, jour du premier anniversaire de son élection, date propice aux bilans et critiques, la conférence de rédaction du journal de la mi-journée d'une grande chaîne publique a décidé de rejeter le sujet pour son édition de 13h. Motif, la religion avait déjà été abordée le dimanche précédent. C'était en effet le dimanche de Pâques. Merci.
Vous venez d'entendre l'intervention de Hervé Yanou, correspondant du Figaro auprès du Vatican, lors d'un colloque à la Fondation Saint-Gé-Polignac consacré au nouveau pape Benoît XVI. Canal Académie vous propose d'écouter maintenant le cardinal Roger Etchegaray. Et vous noterez qu'il salue dans cette introduction aux travaux de l'après-midi du colloque la présence de l'historien de l'Église et de la papauté, M. Philippe Levillain. Le cardinal Etchegaray se souvient de ses rencontres avec le cardinal Ratzinger. Écoutons-le.
En saluant la présence du chancelier Édouard Bonnefous, qui nous accueille au siège de la prestigieuse fondation qu'il préside, et ce matin j'ai présenté à toute l'Assemblée ce qu'est votre fondation. Et j'ajouterai maintenant que, en piquant, si l'on peut dire, le titre d'un de vos livres où vous êtes présenté comme un précurseur à propos de l'environnement, de rapport de l'homme avec la nature. Je pense que ce colloque, de fait, grâce à vous en grande partie, nous permet déjà d'accueillir Benoît XVI en France. Il est avec nous, présent. On l'a déjà bien vu ce matin. Et pour ma part, je voudrais, dans les quelques mots d'introduction, simplement rappeler rapidement l'estime que Benoît XVI porte à la France. Il m'en a parlé souvent et qui m'a redit encore dimanche avant-hier, avant-avant-hier, au terme de la célébration de la fête de Pentecôte à Saint-Pierre. Lors d'un discours à la Villa Bonaparte, le cardinal Ratzinger a rappelé ce qu'il devait, dans sa jeunesse, au drame claudélien « Le soulier de Satin ». Je le cite. « C'était un tournant important de ma vie, le symbolisme de l'amour et du renoncement, de la fécondité du renoncement, de la gloire divine dans la faiblesse humaine, s'était transformé pour moi en un message très personnel, en une indication fondamentale du chemin de vie que je devais prendre. » Dans son autobiographie, parue l'an dernier, « Ma vie souvenir », il raconte comment, jeune séminariste, il a découvert Claudel, Bernanos, Mauriac, et parlant du père de Lubac, surtout de son étude surnaturelle, il écrit « Ce livre, avec sa nouvelle anthropologie, avec sa profonde sensibilité pour l'homme moderne, était pour moi un événement. » Je me souviens d'avoir rencontré ensemble le père de Lubac et le jeune Joseph Ratzinger au Concile Vatican II, ce n'est pas hier. Dès 69, paraît chez nous un de ses premiers grands succès, La foi chrétienne, hier et aujourd'hui. On a un peu oublié sa conférence sur la catéchèse, alors en plein débat, prononcée le 15 janvier 83 à Notre-Dame de Fourvière, à Lyon, et le lendemain à Notre-Dame de Paris. Et le 13 janvier 92, il est élu à l'Académie des sciences morales et politiques qui s'honorait en le recevant et en écoutant son discours de réception au siège de Sakharov. Dans une récente lettre au chancelier Pierre Messmer, aussi heureux de vous voir là, il a confié sa fierté d'être comme pape, membre de l'Institut de France. En juin 2004, il représentait Jean-Paul II aux cérémonies du 60e anniversaire du débarquement allié en Normandie. prononçant à l'abbaye aux hommes de Caen une conférence sur la paix, l'histoire et la religion. Enfin, le 19 décembre dernier, à l'occasion de la présentation des lettres de créance de notre nouvel ambassadeur près du Saint-Siège, il y a ici une brochette d'anciens ambassadeurs auprès du Saint-Siège, Benoît XVI est entré dans le vif de trois grandes questions qui secouent aujourd'hui notre pays, la France. L'intégration de tous, en particulier des jeunes, dans une société de plus en plus multiculturelle, la défense de l'institution conjugale et familiale, ainsi que des valeurs bioéthiques, et enfin la responsabilité croissante des pays riches envers les pays pauvres. On croit tout connaître de Benoît XVI, à partir de l'énorme et dense production du théologien Ratzinger, amplement diffusée, je ne dis pas commercialement, depuis son élection au pontificat. Mais, à vrai dire, on commence à peine à découvrir le pape Ratzinger, ou plutôt ce qu'est un pape dans l'exercice de sa fonction pastorale, au sens précis où un pasteur conduit, guide son troupeau. Sa première encyclique, Deus Caritas Est, est, on l'a dit, le fil rouge de son pontificat, mais n'en dessine pas toute l'ossature. Ce qui est clair, c'est que Benoît XVI, sereinement, s'oppose à toute géopolitique de l'Église. Seul l'intéresse la sauvegarde du patrimoine de la foi et d'une foi vivante. En lui, il n'y a rien de farouche, comme on l'avait prétendu. Il s'est présenté, à peine élu pape, comme, et c'est lui-même qui le dit, un humble tâcheron dans la vigne du Seigneur. Sans privilégier tel ou tel de ses livres de théologien, Benoît XVI m'a confié, il y a à peine quelques mois, et à ma demande, qu'il aimait se reconnaître dans les deux ouvrages entretiens avec le journaliste allemand Peter Sewald. Je viens d'ailleurs le rappeler ce matin. Le sel de la terre et voici quel est votre Dieu. Dans le premier, dans le sel de la terre, qui a été déjà cité abondamment ce matin, en particulier, il esquisse vraiment, déjà on peut dire, tout son pontificat. Il n'esquive aucune des questions brûlantes d'aujourd'hui. Et c'est là que je puise ma toute dernière citation qui me semble donner le ton à tout le pape Benoît XVI. Il dit ceci, « Le chrétien est en perpétuel état de nouveau commencement. Le christianisme en perpétuel état de nouveau commencement. » C'est cette fraîcheur, oui, cette fraîcheur printanière qui, maintenant, est avec nous, que nous allons goûter en écoutant une série aussi de rapporteurs. Ce matin, on a été passionnés, on le sera encore ce soir, malgré l'heure plus pesante peut-être. En tout cas, je souhaite que cette soirée soit pour nous tous un grand moment pour rencontrer Benoît XVI, le pape Ratzinger. Merci.
Vous venez d'entendre le cardinal Roger Etchegaray, membre de l'Institut qui introduisait les travaux du colloque de la Fondation Saint-Gé-Polignac du 7 juin 2006. Comme il l'annonçait, vous allez pouvoir écouter maintenant un autre cardinal, le cardinal Jean-Louis Torrent, archiviste et bibliothécaire de l'Église romaine à la fameuse Bibliothèque du Vatican. Son allocution est consacrée à la diplomatie pontificale au service de la communauté internationale.
Le 24 avril 2005, le pape Benoît XVI inaugurait solennellement son pontificat, comme on nous l'a rappelé ce matin, entouré de 300 000 fidèles, auxquels s'étaient joints 36 chefs d'État et de gouvernement et leurs délégations. À côté d'eux, les membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège représentaient 174 pays et l'ordre souverain de Malte, le dernier État à avoir sollicité ce type de relation avec le Saint-Siège, étant l'émirat du Qatar au début de l'année 2004. Les chefs des missions permanentes de la Fédération de Russie et de l'Organisation de la Palestine étaient également présents, ainsi que la plupart des dirigeants des 15 organisations internationales gouvernementales auprès desquelles un représentant pontifical est accrédité. C'est que dès son élection en conclave, le pape se voit reconnaître une personnalité internationale et devient le titulaire du Saint-Siège, instance suprême de gouvernement qui, selon le canon 361 du Code de droit canonique, comprend le pape et la curie romaine. Le Saint-Siège, donc, qui représente l'Église catholique face aux États et autres organisations de la société civile. Ce que le droit international prend en considération, ce n'est pas d'abord le pape, ancien souverain des États pontificaux ou le chef de l'actuel État de la Cité du Vatican, mais le chef de l'Église et son gouvernement, ce centre unique de communion qui a pour mission d'assurer l'unité au sein de l'Église catholique et qui peut contribuer également au maintien des meilleures relations possibles de coopération avec les institutions politiques. Les premiers représentants pontificaux ad extra furent, il ne faut jamais l'oublier, les premiers légats du pape au premier concile œcuménique. Et on peut dire que le premier nonce au sens moderne du terme est Julien de Chios, qui, après avoir représenté le pape au concile de Chalcédoine, se voit muni dès l'année 453 de deux lettres de créance, une pour le patriarche de Constantinople et une pour l'empereur. Le pape Léon le Grand le charge d'abord d'aider les évêques à mettre en application les décisions du concile qui s'est à peine achevé, et le pape écrit à l'empereur Martien lui demandant de considérer Julien comme l'image de sa présence, « presentia me imago », car, écrit-il, je lui ai délégué ma place pour la garde des églises et de la paix. Et d'ajouter, daigne écouter les suggestions qu'il te fera en faveur de la concorde et de l'unité catholique comme venant de moi. Vous l'aurez remarqué, nous sommes bien avant l'époque des papes chefs d'État, mais même plus tard, quand effectivement le pape sera souverain temporel, la dimension spirituelle de son ministère prévaudra toujours sur la dimension politique. Ainsi, lorsque le congrès de Vienne de 1815 discuta de la préséance des ambassadeurs, le cardinal Consalvi réussit à faire accepter la clause que rien ne serait innové quant aux représentants du pape, et je cite, « par égard aux principes religieux et aux puissances catholiques ». L'exception donc qui donne la préséance au nonce apostolique fut motivée non par des considérations politiques, ni en raison du poids des États pontificaux d'alors, mais en raison de la position éminente du chef de l'Église catholique, en raison de sa qualité religieuse et morale. Et plus près de nous, entre 1870 et 1929, alors que les papes étaient dépourvus de toute souveraineté temporelle, eh bien, ils ont continué à exercer le droit actif et passif de légation, ce qui prouve bien que ce que la communauté internationale reconnaît, c'est l'autorité morale de ce centre unique de communion qu'est le Saint-Siège, sujet de droit international, de nature religieuse et morale, ce que dans le langage courant nous appelons la papauté. Dans ses relations avec les autres sujets de la communauté internationale, le Saint-Siège s'est servi et se sert encore de la diplomatie. Il en utilise les ressources pour assurer, et si besoin, défendre d'abord, bien sûr, les intérêts des communautés catholiques de par le monde. mais aussi pour contribuer à une certaine éthique des relations internationales. Ainsi, en accédant au souverain pontificat, Benoît XVI, qui n'a pas été diplomate, qui n'a pas été formé à l'exercice de la diplomatie, hérite de ce patrimoine et plus encore de tout ce que son prédécesseur Jean-Paul II a réalisé pour l'Église et pour l'humanité dans le domaine des relations internationales. Pour en mesurer la portée, je donnerai quelques chiffres qui me paraissent éloquents. En octobre 1978, quand Jean-Paul II est élu, le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques avec 81 pays. Quand il meurt en 2005, 174 pays ont un ambassadeur accrédité auprès du siège apostolique. Durant son pontificat, il aura rencontré 614 chefs d'État en audience privée et conclu des accords bilatéraux de type varié avec 36 États. Quel a été son message ? Il a proposé à ses interlocuteurs une véritable doctrine des relations internationales contenue dans ses messages du 1er janvier, dans le discours du début d'année au corps diplomatique, ainsi que dans les messages remis à chaque ambassadeur à l'occasion de la présentation de leur lettre de créance. Alors je vais maintenant mentionner rapidement les concepts qui sont à la base de cette doctrine. D'abord, la priorité de la personne humaine, qui suppose le respect absolu de la vie humaine à tous les stades de son développement biologique et le respect des droits fondamentaux, en particulier le droit à la liberté de conscience et de religion, bien sûr. Ensuite, la promotion et la défense de la paix, qui appelle au rejet de la guerre comme solution aux inévitables différends entre les peuples. On se souvient des paroles du pape Jean-Paul II à la veille de l'opération militaire en Irak en 2003, « La guerre est toujours une défaite pour l'humanité ». Ce qui ne veut pas dire, toutefois, que l'Église catholique est naïvement pacifiste. On lit dans un document du Concile, la Constitution Gaudium et Spes, « Aussi longtemps que le risque de guerre subsistera, qu'il n'y aura pas d'autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier au gouvernement, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense ». Ensuite, la justice. La justice comme condition de la coexistence pacifique entre les peuples. Que de fois Jean-Paul II a affirmé « pas de paix sans justice ». Pensons à ses messages de début d'année. La dette ne doit pas écraser le débiteur. L'accès à l'eau doit être garanti à tous. Pas de paix sans développement. Pas de démocratie sans justice. Pas de paix sans culture, et tant d'autres thèmes. Ensuite, le dialogue entre les religions et les cultures. Jean-Paul II est le père de l'esprit d'Assise. Il était convaincu que les croyants, quels qu'ils soient, sont porteurs d'une force d'amour et de miséricorde dont le monde a besoin. Le croyant, quand il rencontre quelqu'un qui cherche, qui doute ou qui souffre, ne lui demande pas quelle est sa nation ou sa religion. Il voit en lui la créature de Dieu, et bien sûr cela change tout. Enfin, la primauté du droit international, qui doit guider le comportement des responsables d'États égaux, qui forment ce que le pape Jean-Paul II appelait la famille des nations. Si ces dernières années, c'était bien la conviction du pape, le droit international avait été respecté et ses dispositions appliquées, eh bien, beaucoup de crises auraient été évitées. Si nous prenons connaissance maintenant des interventions écrites ou orales du pape Benoît XVI durant cette première année de pontificat, eh bien, nous ne pouvons que constater que ses positions et ses préoccupations sont parfaitement identiques à celles de son prédécesseur. À l'occasion de sa première rencontre avec le corps diplomatique, le 12 mai 2005, le nouveau pape plaide pour l'union de l'humanité. En évoquant d'ailleurs Jean-Paul II, qui, dit-il, a montré le chemin vers Dieu, invitant tous les hommes de bonne volonté à raviver sans cesse leur conscience et à édifier une société de justice, de paix, de solidarité, dans la charité et le pardon mutuel. Fin de la citation. Le nouveau pape appelait aussi les responsables des nations à vaincre la tentation d'affrontement entre des cultures, des ethnies et des mondes différents, en acceptant de partager leurs richesses spirituelles et matérielles au bénéfice de tous. Si nous lisons son premier discours de vœux au corps diplomatique du 9 janvier dernier, dont ce matin on nous a d'ailleurs parlé, eh bien, nous retrouvons là encore bien des convictions du pape Jean-Paul II. Des relations internationales basées sur la vérité, comme on nous disait, la vérité qui permet de reconnaître l'égalité et la diversité de chaque peuple. Le pape disait qu'en ces aspects distincts mais complémentaires, la diversité et l'égalité, sont connus et reconnus, alors les problèmes peuvent se résoudre et les dissensions s'apaiser selon la justice. Lorsque l'un de ces aspects est méconnu ou que l'on n'en tient pas compte, c'est alors que se font jour l'incompréhension, le conflit, la tentation de la violence et des abus de pouvoir. Fin de la citation. Ensuite, la nécessité de faire en sorte que soit assurée la liberté à l'intérieur de chaque État et dans la vie publique et privée. Tant dans les relations économiques que politiques, tant dans les relations culturelles que religieuses. Ce qui donne au pape l'occasion de demander le respect effectif de la liberté de religion. Il dit « Si vous ne craignez pas la vérité, vous ne devez pas craindre la liberté. » Le Saint-Siège, qui demande partout pour l'Église catholique des conditions de vraie liberté, le demande pareillement pour tous. Vient également aussi la préoccupation de faire comprendre à toutes les parties en conflit qu'elles ne peuvent pas ne pas reconnaître leurs erreurs, et non seulement celles des autres, ni refuser de s'ouvrir au pardon demandé et accordé. Le devoir de promouvoir la justice, la vérité, dit-il, veut qu'aucun État prospère ne se soustrait à ses responsabilités et à son devoir d'aide, puisant avec une plus grande générosité dans ses propres ressources. On peut affirmer, poursuit le pape, que moins de la moitié des immenses sommes globales destinées aux armements seraient plus que suffisantes pour que l'immense armée des pauvres soit tirée de l'indigence, et cela de manière stable. Et enfin, comme son prédécesseur, l'estime pour le droit international. Je mentionne par exemple ce qu'il affirme dans son dernier message pour la journée de la paix du 1er janvier 2006 au sujet du droit humanitaire. Il le considère comme l'une, je cite, des expressions les plus heureuses et les plus efficaces des exigences qui émanent de la vérité de la paix. Pour Benoît XVI, sa valeur doit être appréciée et il faut en garantir l'application correcte en le renouvelant par des normes ponctuelles capables de faire face aux scénarios changeants des conflits armés d'aujourd'hui ainsi qu'à l'utilisation d'armements toujours nouveaux et plus sophistiqués. Et on retrouve chez le pape actuel les mêmes préoccupations concrètes pour des situations de crise qui mobilisaient déjà les énergies de Jean-Paul II. Le désir exprimé aux diplomates, quelques semaines après son élection, de voir les nations avec lesquelles le Saint-Siège n'entretient pas de relations diplomatiques représentées au plus tôt, disait le pape, en particulier celles dans lesquelles les communautés catholiques sont nombreuses. On peut évidemment supposer que le pape pensait à la Chine continentale et au Vietnam. La Terre Sainte, où l'État d'Israël, dit le pape, doit pouvoir y exister pacifiquement, conformément aux normes du droit international, et le peuple palestinien pouvoir y développer sereinement ses institutions démocratiques pour un avenir libre et prospère. Le Liban, dont la population, disait le pape, doit retrouver, avec aussi le soutien de la solidarité internationale, sa vocation historique en faveur de la collaboration sincère et fructueuse entre les communautés de foi différentes. L'Irak et l'Afrique sont également mentionnés, mais je passe pour ne pas être trop long. Le terrorisme. Personnellement, je ne connais pas de condamnation aussi vigoureuse du terrorisme organisé que celle de Benoît XVI. Écoutez bien. Aucune circonstance ne peut justifier cette activité criminelle qui couvre d'infamie celui qui l'accomplit et qui est d'autant plus blâmable qu'elle se pare du bouclier d'une religion, rabaissant aussi ainsi au niveau de son aveuglement et de sa perversion morale la pure vérité de Dieu. C'est absolument extraordinaire. Benoît XVI, on nous l'a dit ce matin, est aussi un fervent européen, comme en attestent plusieurs interventions prononcées avant son élection pontificale, et le choix du nom de Benoît est éloquent pour le pape. La culture européenne n'est pas compréhensible sans Benoît de Nursie. Ses racines sont fécondées par l'humus chrétien, mais on nous l'a dit ce matin, dont je passe. Comme son prédécesseur, le pape actuel n'a pas voulu laisser planer aucun doute sur son engagement œcuménique, et ce qui a également évidemment des répercussions sur l'action diplomatique du Saint-Siège, comme en témoignent ses encouragements à la reprise des travaux de la commission de coordination de la Commission internationale pour le dialogue entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, et les paroles prononcées il y a quelques jours à Varsovie devant les représentants de l'orthodoxie et des communautés issues de la Réforme sont révélatrices de cette volonté d'avancer sur le chemin de l'unité, dans le sillage et à la manière de Jean-Paul II. Benoît XVI pense aussi que le dialogue interreligieux est facteur de paix. À cet égard, la visite à la synagogue de Cologne et sa rencontre avec les musulmans, toujours à Cologne en août 2005, dans le cas des JMJ, sont emblématiques. S'adressant à la délégation des fidèles de l'islam, il affirmait alors « Nous devons proclamer ensemble les valeurs de respect réciproque, de solidarité et de paix. Nous voulons rechercher les voies de la réconciliation et apprendre à vivre en respectant l'identité de l'autre. » En ce sens, la défense de la liberté religieuse est un impératif constant et le respect des minorités est un signe incontestable d'une véritable civilisation. Le dialogue interreligieux et interculturel entre chrétiens et musulmans ne peut pas se réduire à un choix passager, c'est en réalité une nécessité vitale dont dépend en grande partie notre avenir. Fin de la citation. Finalement, Jean-Paul II et Benoît XVI ont en commun la volonté de fournir à leurs contemporains des repères spirituels et moraux, je dirais des raisons de choisir et de vivre. Et la diplomatie est pour eux un instrument valable pour mener à bien cette tâche. Jean-Paul II un jour a bien défini d'ailleurs la raison d'être du Saint-Siège au sein de la communauté des nations. Il disait « Être la voie qu'attend la conscience humaine, sans minimiser pour cela l'apport d'autres traditions religieuses, sans aucun autre souci que de rappeler inlassablement les exigences du bien commun, le respect de la personne humaine, la promotion des plus hautes valeurs spirituelles. » Fin de la citation. Et Benoît XVI, s'adressant au corps diplomatique, toujours quelques semaines après son élection, a voulu à son tour assurer les responsables des nations que dans le concert des nations, l'Église souhaite toujours favoriser l'entente entre les peuples et la coopération fondée sur une attitude de loyauté, de discrétion et de cordialité. Loyauté, discrétion et cordialité. Vraiment, c'est la grande diplomatie. Personnellement, durant 28 ans, j'ai été le témoin privilégié de l'attention avec lesquelles les papes, de l'attention avec laquelle les papes et leurs collaborateurs ont été attentifs au bonheur et aux épreuves des personnes et des peuples, toujours disponibles pour leur indiquer la route qui conduit à la fraternité, en répétant chacun à sa manière cette conviction que nous ne pouvons pas être heureux les uns sans les autres, et encore moins les uns contre les autres. La diplomatie romaine, pour reprendre le titre donné à ma communication, n'est rien d'autre dans le fond que l'histoire d'un long compagnonnage avec l'histoire des hommes tels qu'ils sont et où ils se trouvent. À l'image de ce nonce en Allemagne, au temps de la Seconde Guerre mondiale, Cesare Orsenigo, après que l'Annonciature à Berlin ait été bombardée dans la nuit du 23 novembre 1943, le nonce erra plus d'une année d'un quartier à l'autre de la capitale. à l'approche du front russe, il finit par accepter l'hospitalité de l'évêque d'Eichstätt, où il arriva en février 1945, y installant provisoirement ses bureaux et sa résidence, bien que le gouvernement auprès duquel il avait été accrédité n'existât plus. Le conseil de contrôle allié à Berlin supporta sa présence malgré les remontrances des soviétiques, qui demandèrent un jour à un officier français « Mais enfin, auprès de qui ce nom s'est-il accrédité ?» Et notre compatriote répondit « Auprès de Sa Majesté, la misère humaine. » Ces mots constituent pour moi le plus bel hommage que l'on puisse rendre à la diplomatie romaine. Par où pourrais-je mieux finir ? Merci pour votre attention.
Vous venez d'entendre le cardinal Jean-Louis Torrent. Voici maintenant l'allocution de l'évêque de Nanterre, Mgr Gérard Daucourt. Mgr Daucourt est membre du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et c'est sur ce sujet qu'il s'exprime.
Dans son allocution aux représentants des églises chrétiennes qui composent le Conseil œcuménique polonais, le pape Benoît XVI a déclaré au cours de cette rencontre à laquelle Son éminence le cardinal Torrent faisait allusion il y a un instant, Benoît XVI a déclaré « Je vois dans notre rencontre une des étapes pour réaliser la proposition ferme que j'ai faite au début de mon pontificat, qui est de considérer comme une priorité de mon ministère la restauration de la pleine et visible unité entre les chrétiens. » Ce sont, à ma connaissance, les paroles les plus récentes que le pape a prononcé au sujet de l'œcuménisme, c'était le 26 mai dernier. Permettez-moi de rappeler brièvement que par le terme œcuménisme, les chrétiens désignent les démarches de prière, de dialogue théologique, de collaboration pratique, de témoignage commun, par lesquels ils cherchent à mieux manifester l'unité qui doit être la leur en tant que disciples du Christ. Par leur but et par leur nature, ces démarches sont donc spécifiques au christianisme. Et elles se distinguent donc nettement des contacts et dialogues avec le judaïsme, dialogue qui a à lui seul sa spécificité, ou des autres dialogues avec l'islam ou les autres religions. C'est par l'enseignement du deuxième concile du Vatican que toute l'Église catholique a rejoint un mouvement qui, comme elle l'a reconnu, est né en dehors d'elle, le mouvement œcuménique. Le jeune théologien Ratzinger, expert de l'archevêque de Cologne à ce concile, a pris, on le sait, une part importante et parfois décisive à l'élaboration de l'enseignement des pères conciliaires. Par la suite, comme professeur de théologie, puis archevêque de Munich, puis préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et aujourd'hui comme pape, il ne cessera de promouvoir cet enseignement par de nombreux ouvrages de référence, de nombreux articles et des prédications ou conférences à des publics les plus divers. L'apport du travail de l'enseignement théologique de Joseph Ratzinger est aujourd'hui incontournable dans la démarche œcuménique, tant il est substantiel et concerne les réalités essentielles de cette communion entre les chrétiens, communion qui est toujours en même temps tension parce qu'il s'agit d'unité dans la diversité. L'enseignement que le cardinal Joseph Ratzinger a dispensé en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi marque aussi profondément le chemin vers une plus grande unité entre les chrétiens. Certaines de ses déclarations officielles furent parfois considérées, soit par certains catholiques, soit par des chrétiens d'autres églises, comme de nouveaux obstacles ou des coups de frein. Il pouvait sembler légitime à certains de critiquer parfois un langage ou le moment ou encore la méthode choisie pour publier tel texte ou encore regretter l'absence d'une mention ou d'un développement qui leur semblait nécessaire, mais personne ne pouvait ignorer que le cardinal Ratzinger agissait en tant que serviteur de la vérité de la foi catholique et en totale communion avec le pape Jean-Paul II, qu'il avait appelé à ce délicat, important et indispensable service. Aucune dichotomie n'est admissible entre la foi et la vie, affirmait Benoît XVI le 25 octobre dernier. Je crois que nous avons là une des clés qui nous permet d'avoir accès aux raisons profondes de l'engagement de toujours de Joseph Ratzinger pour la promotion de l'unité des chrétiens. L'expérience de la foi au Christ et de l'amour de l'Église et l'expérience de la vie quotidienne ne font qu'un chez lui. L'expérience spirituelle et l'expérience de la vie sont une seule expérience. Le théologien orthodoxe français Jean-François Colosimo s'interrogeait il y a quelques semaines dans le journal La Croix, où il publiait un article. Il s'interrogeait par ces mots: « Mystère Benoît XVI ? Et si ce mystère n'était qu'un témoignage rendu au plus grand mystère de la foi comme expérience de la vie trinitaire que le pape porte dans sa méditation et donc dans sa prière depuis un demi-siècle et plus ?» L'expérience mystique qui marque l'enseignement théologique du professeur Ratzinger et maintenant l'enseignement pastoral magistériel du pape Benoît XVI en matière écuménique est nourrie aussi de rencontres et d'échanges. Joseph Ratzinger connaît bien les églises de la Réforme. À Cologne, le 19 août 2005, il déclarait aux représentants protestants et orthodoxes « Provenant moi-même de ce pays, je connais bien la situation pénible que la rupture de l'unité dans la profession de la foi a comporté pour tant de personnes et tant de familles. Dans le dialogue écuménique, la place de l'Allemagne revêt sans aucun doute une importance particulière. Nous sommes le pays d'origine de la Réforme, mais l'Allemagne est aussi l'un des pays d'où est parti le mouvement écuménique du XXe siècle. » Lors de la fête des saints apôtres Pierre et Paul le 29 juin 2005, à la tête de la délégation envoyée par le patriarche écuménique Bartholomée Ier, se trouvait le grand théologien orthodoxe, le métropolite Jean de Pergame, nouveau président de la Commission internationale de dialogue entre l'Église catholique et les Églises orthodoxes dans leur ensemble. Le métropolite a adressé à cette occasion ces paroles au Saint-Père. « En votre personne, nous reconnaissons un guide spirituel auquel Dieu a accordé les charismes nécessaires à l'exercice d'un si haut ministère, en particulier les compétences en matière de théologie et la sagesse si essentielles à la vie et au ministère de l'Église. À tout cela, permettez-moi d'ajouter le fait, si important pour les orthodoxes, que votre sainteté possède une profonde connaissance de la tradition orthodoxe et la tient en haute estime. » Au début de son pontificat, ayant annoncé sa participation aux Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, Benoît XVI annonçait bientôt, comme autre déplacement, une visite au patriarche de Constantinople. Il voulait ainsi honorer le siège primatial de l'orthodoxie. Mais comme souvent dans les démarches écuméniques, le contexte politique a dû être pris en compte, le gouvernement d'Ankara ayant demandé que cette visite soit reportée, elle vient d'être annoncée officiellement pour le 29 novembre prochain. Par diverses initiatives discrètes, Benoît XVI a manifesté une attitude de confiance à l'égard du patriarcat de Moscou. Le patriarche Alexis II a apprécié les premières paroles du nouveau pape à propos de l'écuménisme, ainsi que les messages qu'il lui a adressés, en particulier, je crois, celui que lui a apporté le cardinal Etchegaray lors de sa récente visite à Moscou. Donc, sous l'autorité de Benoît XVI, l'Église catholique poursuit l'engagement écuménique qu'elle a pris au deuxième concile du Vatican. Le pape continue de recevoir des délégations des différentes églises, de la Réforme ou des églises orthodoxes ou des organismes écuméniques. Il ne manque pas de leur adresser un message qui, rendu public, manifeste l'engagement personnel du Saint-Père pour la cause de l'unité des chrétiens et ses efforts pour que tous les catholiques persévèrent dans ce sens. Pour la première année de son pontificat, et en ce qui concerne l'écuménisme, deux messages du pape me semblent devoir retenir particulièrement l'attention. D'abord celui de la messe de clôture du conclave. Le Saint-Père y a pris cet engagement solennel, je cite, « en toute conscience, au début de son ministère dans l'Église de Rome que Pierre a baigné de son sang, son successeur actuel se fixe comme tâche première, de travailler sans ménager son énergie à la reconstruction de l'unité pleine et visible de tous les disciples du Christ. Telle est mon ambition, telle est son ambition, tel est son devoir impérieux. Il est conscient, toujours le successeur de Pierre, il est conscient que pour cela, les manifestations de bons sentiments ne suffisent pas. Il faut des gestes concrets qui pénètrent les âmes et remuent les consciences, invitant chacun à cette conversion intérieure qui est le présupposé de tout progrès sur le chemin de l'écuménisme. Puis il y eut le discours aux représentants des églises protestantes et orthodoxes d'Allemagne, le 19 août 2005, qui est tout de même une sorte de discours programme pour l'écuménisme, même si le pape se défend dans le discours même de vouloir y développer, je le cite, un programme pour les thèmes immédiats du dialogue. En tout cas, le Saint-Père attire l'attention sur les suites de la déclaration conjointe concernant la doctrine de la justification, déclaration signée en 1999 par l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale. Il estime que luthériens et catholiques ont dorénavant à approfondir ensemble, c'est la place de la parole de Dieu dans le monde, et non pas d'abord des questions d'institution. Après avoir développé son argumentation, Benoît XVI a manifesté à quel point il s'engage personnellement dans la sainte cause de l'unité. Il a ajouté « Excusez-moi si j'ai exprimé ici une opinion personnelle, mais il me semblait juste de le faire. » C'est dans ce même discours qu'il tiendra à signaler une priorité urgente dans le dialogue écuménique, celle constituée par les grandes questions éthiques posées par notre temps. Pour celles qui concernent la sexualité, le couple, la famille, l'avortement, l'euthanasie, on le sait, les divergences sont grandes entre l'Église catholique et les Églises issues de la Réforme. Il faut cependant mettre à part les communautés qui se réclament de ce qu'on appelle la mouvance évangélique. Et ces divergences en matière d'éthique élargissent aussi le fossé entre anglicans et catholiques, alors que des progrès doctrinaux quasi spectaculaires les avaient récemment rapprochés. Benoît XVI a déjà encouragé à plusieurs reprises le dialogue théologique qui reprendra en septembre prochain avec les églises orthodoxes dans leur ensemble. L'Église catholique se reconnaît en quasi-communion avec elle. La véritable divergence sérieuse porte sur la question de l'interprétation et de la portée du ministère du pape, ministère que l'Église catholique reconnaît comme faisant partie du dépôt de la foi, mais dont elle est prête, selon l'encyclique Utunum Sint de Jean-Paul II, à changer, à modifier les modalités d'exercice. Il y a aussi des difficultés d'un autre ordre qui sont survenues il y a une dizaine d'années. Elles concernent le statut ecclésiologique des églises orientales unies à Rome et les accusations de prosélytisme portées à l'égard de l'Église catholique dans certaines régions orthodoxes d'Europe occidentale. Aussi bien à Cologne que lors de l'accueil de la délégation orthodoxe à la fête de Saint-Pierre et Paul, Benoît XVI a réaffirmé « L'unité ne signifie pas ce qu'on pourrait appeler un écuménisme du retour ». C'est-à-dire renier et refuser sa propre histoire de foi. Absolument pas. Cela ne signifie pas uniformité de toutes les expressions de la théologie et de la spiritualité dans les formes liturgiques et dans la discipline. Unité dans la multiplicité et multiplicité dans l'unité. Mais il y a aussi plus de 10 ans que le cardinal Ratzinger avait d'autre part relevé que de nombreux problèmes viennent du fait que l'écuménisme est souvent entendu selon un modèle politique et considéré comme des négociations entre des États avec des discussions et des compromis pour arriver à un contrat. On ne saurait reprocher à ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne d'avoir plus ou moins cette compréhension erronée de l'œcuménisme. Dénonçant fréquemment le relativisme ambiant, Benoît XVI ne laissera pas les catholiques confondre l'œcuménisme avec des tractations cherchant un plus petit dénominateur commun au christianisme pour s'en accommoder. D'autre part, s'il a rappelé que l'œcuménisme de la prière, de la charité, l'œcuménisme spirituel est l'âme de tout œcuménisme, il a aussi redit que la fraternité entre les chrétiens n'est pas simplement un vague sentiment et qu'elle n'est pas non plus une forme d'indifférence à l'égard de la vérité. Ce dernier rappel est évidemment essentiel parce que une des difficultés nouvelles est que toutes les églises ne semblent pas donner actuellement le même but à l'œcuménisme. Un certain nombre de chrétiens ou de communautés chrétiennes semblent heureux de la fraternité retrouvée, nous le sommes tous, mais se contenteraient d'une situation de plusieurs églises pacifiquement divisées. Le successeur de Pierre tient le gouvernail à la hauteur du ministère que le Christ lui a confié. Par obéissance au Christ chemin, vérité et vie, qui prie pour que tous ses disciples soient un, afin que le monde croie, je viens de citer l'évangile de Saint Jean, et aussi par amour de l'Église, recevant le deuxième concile du Vatican comme une boussole, c'est une expression de Jean-Paul II, et parce que, comme il l'a dit, il sent la main forte de Jean-Paul II serrant la sienne en lui disant « N'aie pas peur », Benoît XVI accomplit la tâche première qu'il s'est fixée au lendemain de son élection, travailler sans ménager son énergie à la reconstitution de la pleine et visible unité entre les chrétiens.
Après l'évêque de Nanterre que vous venez d'entendre, Mgr Gérard Daucourt, la parole fut donnée à M. Gilles Ferragu, historien, maître de conférence à l'Université de Paris 10 Nanterre et enseignant à Sciences Po. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de l'Italie et du Vatican.
Les silences de Benoît XVI, donc. L'élection d'un nouveau souverain pontife est toujours conçue comme les prémices d'une vision du monde, d'une Weltanschauung, au point que l'on pourrait parler d'une sorte d'état de grâce qui, comme au lendemain d'une élection politique, baigne les consciences chrétiennes et profite aux successeurs de Pierre. Un état de grâce qui n'empêche pas des interrogations, on se souviendra du mystère Roncalli dans les années 60, un état de grâce qui est censé favoriser le mouvement. À l'avènement de Jean-Paul II, la petite phrase « n'ayez pas peur » semblait un programme en soi, l'annonce d'un projet qui englobait non la seule catholicité, mais le monde. Et de fait, ce pontificat, dont le bilan est désormais dressé, eut des vues larges, au-delà des frontières politiques. Un pape politique aurait pu conclure Désiré Nisard, ambassadeur de France près le Saint-Siège jusqu'en 1904, qui ironiquement désignait le successeur de Léon XIII, Pie X, sous le titre de pape religieux. Avec Benoît XVI, il semble que cette dichotomie soit de nouveau d'actualité, pour un pontificat qui, entre autres questions, pose déjà celle-là, quel exercice du magistère pontifical après Jean-Paul II. Dans le silence des premiers mois, chacun a cru discerner une pratique nouvelle, faite de retenue, de silences inspirés, mais quant à l'évaluer, les opinions divergent. Pontificat de décantation, selon Alberto Meloni, pontificat à la croisée des chemins, selon Giancarlo Zizola, voire même pontificat de transition pour nombre d'observateurs obnubilés par la question de l'âge. Les attentes des uns et des autres diffèrent autant. Ceux qui espéraient, à l'issue des premiers mois d'installation, une grande surprise concernant la liturgie, la morale sexuelle, l'admission au sacerdoce des hommes mariés, une réforme de la curie, en seraient pour leurs frais. Pas d'effet d'annonce jusque-là, mais des indices. La petite phrase traditionnelle qui reste « Je suis un humble serviteur dans les vignes du Seigneur » révèle de fait un regard nettement plus intimiste, peut-être moins entreprenant que celui de son prédécesseur, et qui vise donc peut-être plus le peuple chrétien que la communauté générale. L'on conclurait donc rapidement que les silences de Benoît XVI sont le reflet d'une diplomatie silencieuse. Ce serait toutefois se limiter à une conception spectaculaire, voschtilienne, de l'action pontificale, là où Benoît XVI, dans la foulée non seulement de Benoît XV, celui du message de paix de 1917, de l'appel à la concorde, mais peut-être aussi bien de Pie X, semble développer un projet plus ample et plus discret, et pour reprendre la devise de Pie X, tout restaurer dans le Christ. Du reste, la première allocution du pape à la secrétaire d'État trace un chemin à la fois ambitieux, au confluent d'un œcuménisme raisonné et d'une évangélisation nouvelle. Je cite, « Nous ne travaillons pas pour défendre un pouvoir, nous n'avons pas un pouvoir terrestre séculier, nous ne travaillons pas pour le prestige, nous ne travaillons pas pour développer une entreprise ou quelque chose de semblable, nous travaillons réellement pour que les routes du monde soient ouvertes au Christ. » À l'issue du pontificat de Jean-Paul II, des routes ont en effet été ouvertes et il appartient à son successeur de les entretenir ou d'en ouvrir d'autres. Toutefois, ce constat banal suppose de saisir l'originalité de l'action pontificale. La diplomatie pontificale est une diplomatie spécifique et perçue comme telle. Le temps n'a guère de prise sur elle. On lui reconnaît à la fois une réelle hauteur de vue et une presbytie qui l'écarte de l'urgence, de l'immédiateté. C'est une diplomatie qui développe ses propres instruments de communication, ses propres codes, ses propres critères, parfois éloignés des conceptions temporelles des chancelleries. Est-elle alors lisible ? C'est peut-être ce qui justifie le métier en soi de vaticanologue. Si Jean-Paul II aura été le pape voyageur, Benoît XVI est un homme de l'action catholique. Ce n'est pas un hasard si c'est sa participation en 1980 à un synode extraordinaire sur le laïcat qui le révèle comme un partisan de l'expérience des mouvements de laïcs, un an avant sa nomination comme préfet de la congrégation de la doctrine de la foi. Donc, un homme de mouvement, de laïcs, qui fait de l'Église en tant que communauté de croyants un outil, un instrument diplomatique. Ce qui relève peut-être d'une forme de lobbying. C'est une diplomatie indirecte donc, silencieuse peut-être, parce qu'elle compte sur des forces profondes plutôt que sur des témoignages, sur des mouvements souterrains plutôt que sur des mises en lumière. Encore faut-il en discerner les tendances, les lignes de force, saisir la représentation que Benoît XVI donne de l'action pontificale et ses directions. Pour définir cette diplomatie du silence fondée sur l'inertie des opinions, il faut en saisir les enjeux et les instruments. Ainsi, dans la pensée de Benoît XVI, une pensée formulée par petites touches au cours de rares discours, et ce en comparaison de la prolixité de son prédécesseur, le rôle de l'Église comme communauté et comme instrument apparaît clairement. Dans un discours aux pèlerins madrilènes de juillet 2005, Benoît XVI indique, je cite, « La communauté ecclésiale a pris conscience d'être une famille dans la foi, une famille unie par un lien profond et mystérieux qui réunit les réalités les plus diverses. » Et transforme au moyen de la présence de Dieu en son sein, en signe d'unité pour toute la société. Je passe un passage, c'est une communauté qui harmonise et fait régner la concorde. Un constat donc, peut-être banal, mais rehaussé par l'agonie et la mort de Jean-Paul II. Joseph Ratzinger, comme nombre de témoins, aura été impressionné par l'écho de cette agonie. Et Benoît XVI y puise sans doute une inspiration renouvelée. Ainsi, dans un premier message du 20 avril 2005, il constate que l'assistance extérieure à cette, enfin la médiatisation plutôt de cette mort est une demande d'aide unanime adressée au pape de la part de l'humanité actuelle qui, troublée par les incertitudes et les craintes, s'interroge sur son avenir. Et c'est entre autres sur la base de ce constat qu'il semble proposer une diplomatie fondée sur cette communauté, sur son influence dans un paysage politique national et international. D'acteur et de témoin, comme Jean-Paul II, le pape devient un initiateur et un inspirateur. D'où cette conception d'une diplomatie des silences pour une communauté qui est à reformuler. Un message qui est martelé à plusieurs occasions. Je cite ainsi le premier message au terme de la célébration eucharistique. C'est donc pleinement conscient, au début de son ministère dans l'église de Rome, que Pierre a baigné de son sang que son successeur actuel prend comme premier engagement de travailler sans épargner ses forces à la reconstruction de l'unité pleine et visible de tous les fidèles du Christ. On pourrait de même lire dans la méditation de Benoît XVI à l'ouverture de la 11e Assemblée générale du Synode des évêques, le 3 octobre 2005, une réflexion sur la manière dont ce renouveau peut être opéré, notamment par l'allusion assez constante à la réparation d'un filet. L'allusion aussi à l'instrument de musique dont une corde peut être cassée et qu'il faut réparer pour que l'instrument fonctionne bien. Je cite « Réparer cet instrument, découvrir ses déchirures, ses problèmes, ses défauts, à quel point il a été négligé, et faire que cet instrument soit parfait, soit complet, afin qu'il serve à ce pourquoi il a été créé par le Seigneur. Quelles sont alors les voies de cette reformulation du lien entre le pasteur et le troupeau, perçu désormais dans son ensemble selon un prisme qui est celui des mouvements de laïcs? Si la référence à Jean-Paul II et à l'image de la boussole constituée par le Concile Vatican II est une constante, la reconstruction suppose également des agents. Aussi, les diplomates sont-ils à l'avant-poste de cette politique? Le rôle de la diplomatie pontificale est donc avant tout dirigé vers la communauté ecclésiale plutôt qu'internationale. C'est ce qui ressort d'un discours de réception à l'Académie pontificale, et c'est par ailleurs ce qui a été recommandé encore récemment lors de son déplacement en Pologne au clergé, invité à se spécialiser dans la rencontre avec Dieu plutôt que dans les affaires économiques, d'entreprise ou politiques. Je cite donc ce discours de réception. « Dans votre activité quotidienne, vous devrez vous engager à faire en sorte que les liens de communion des églises particulières avec le siège apostolique soient toujours plus intenses et actifs. Vous vous préoccuperez dans le même temps de rendre visible et présente la sollicitude que le successeur de Pierre a pour tous ceux qui font partie du troupeau du Seigneur. » L'idée étant que cette communauté reconstruite est appelée à collaborer dans une relation non pas verticale, subordonnée, mais d'égal à égal avec les États qui la gèrent. Je cite cette fois un discours de réception de l'ambassadeur du Venezuela du 25 août 2005. C'est pourquoi, tout en respectant les compétences respectives, il existe de nombreux domaines dans lesquels il apparaît utile d'établir diverses formes de collaboration féconde entre l'État et l'Église. Renforcer les liens au sein de la communauté, lui donner non pas une conscience effective, mais une justification politique, telle est l'une des missions assignées aux diplomates du Saint-Siège. Dans la pensée de Benoît XVI, cette ambition de reformuler une communauté comme instrument actif de témoignage et de reconquête va de pair avec une réflexion historique sur la notion de racines, racines chrétiennes et racines allemandes. Et cette identité allemande que la récente visite à Auschwitz, comme je cite, un fils du peuple allemand, de même que Jean-Paul II s'y était présenté comme un fils du peuple polonais et comme catholique, a mis en lumière, donc est l'un des topos des discours du pape Ratzinger. Un topos qui fait référence à un legs spirituel riche et à une présence historique du christianisme. Je cite encore une fois Benoît XVI, « Dans ce chemin intérieur, les nombreux signes que la longue et riche tradition chrétienne a laissés de manière indélébile sur cette terre d'Allemagne peuvent être une aide. » Et plus loin, il parle encore une fois de cette tradition et de son rôle dans le cœur de l'Europe. C'est le discours lors de son arrivée à Cologne du 18 août. Ainsi, une étape dans la reformulation de cette communauté historique, via la notion de racine, suppose un détour attendu par l'histoire. Et encore une fois, la communauté allemande, mais pas seulement elle, est prise à partie par un souverain pontife qui revendique cet héritage. Je cite cette fois le premier message, à nouveau, du 20 avril. « Le dialogue théologique est nécessaire. L'approfondissement des motivations historiques, des choix qui ont eu lieu par le passé, est également indispensable. Mais ce qui est plus urgent encore est la purification de la mémoire. » Et manifestement, cette purification de la mémoire, qui trouve d'ailleurs son écho dans un autre appel, récurrent cette fois, à la purification des cœurs, passe par une réflexion inévitable sur le siècle passé et ses guerres. La référence plus récente, notamment dans le discours au JMJ, au nazisme comme à un néopaganisme, rappelant ainsi la condamnation qu'en fit Pie XI, reprend ce thème d'une purification de la mémoire. De même, le constat à Auschwitz que la destruction des Juifs ruine les racines sur lesquelles se fonde le catholicisme relève de cette mémoire purifiée. Benoît XVI, dans la lignée de Benoît XV, qui s'est heurté d'ailleurs à une réelle incompréhension, semble appeler à une concorde, cette alternative chrétienne à la seule paix des États. Une concorde fondée sur une histoire européenne assumée. Des racines allemandes, on passe aux racines chrétiennes et à cette Europe imprégnée, je cite, « d'un esprit particulier » ou encore d'une âme européenne, évoquée à plusieurs occasions. Ainsi, dans un discours à l'ambassadeur de l'ex-République yougoslave de Macédoine, dans le processus d'élargissement de l'Union européenne, il est capital de rappeler que l'Union n'aurait pas de consistance si elle était réduite à ses seules composantes géographiques et économiques. Au contraire, elle doit avant tout consister en une harmonisation des valeurs appelées à s'exprimer dans le droit et dans la vie. Ces racines sont autant d'instruments pour une contribution vaticane à l'unité du continent européen autant qu'à l'unité européenne. Une unité fondée non sur les valeurs des Lumières, l'adhésion ainsi à un destin européen sans considération de racines chrétiennes, c'est notamment la position de Benoît XVI concernant la candidature turque à la CE, mais sur des racines chrétiennes assumées. Et c'est cela, et cela dans une nouvelle période historique du continent, je cite encore un discours, une phase délicate, comme il le dit, à l'ambassadeur de Malte, le 16 juin 2005. C'était déjà le sens d'un discours célèbre, assez discuté, l'homélie du 18 avril 2005, De Eligendo Pontefice, au cours de laquelle le cardinal Ratzinger a dénoncé, je cite, « la dictature du relativisme, qui ne reconnaît rien comme définitif et qui retient comme un ultime critère que son propre ego et ses désirs. » Cette condamnation du relativisme, qui dilue l'identité européenne et interdit une action de la communauté chrétienne et européenne, est une autre constante. Donner vie à une Europe unie et solidaire représente un engagement de tous les peuples qui la composent. En effet, l'Europe doit savoir conjuguer les intérêts légitimes de chaque nation avec les exigences du bien commun du continent tout entier. C'est le sens du discours de l'ambassadeur, du discours de réception de l'ambassadeur de Malte du 16 juin 2005. On pourrait concevoir que dans l'esprit du pape, l'Europe, comme communauté de chrétiens, est appelée à propager des valeurs. Ainsi, toujours à cet ambassadeur, Benoît XVI dit, il, le peuple de Malte, veut se prodiguer afin que la communauté européenne du troisième millénaire ne perde pas le patrimoine de valeurs culturelles et religieuses de son passé. Et, un peu plus loin, contribuant à consolider ses capacités de dialogue, de défense et de promotion de la famille fondée sur le mariage, les traditions chrétiennes, l'ouverture et la rencontre avec des cultures et des religions différentes. Et c'est du reste sa lecture d'un œcuménisme raisonné, différent de celui de Jean-Paul II, dont on trouve les échos, avant même son élection, dans le discours de Subiaco du 1er avril 2005, à l'occasion de la remise du prix San Benedetto pour la promotion de la vie et de la famille en Europe. Et c'est sans doute dans ce sens qu'il faut entendre des phrases prononcées ex cathedra désormais sur l'Europe. Je cite le discours de réception à l'ambassadeur de Bulgarie du 13 mai 2006. « Dans le monde incertain et troublé qui est le nôtre, l'Europe peut devenir témoin et messager du dialogue nécessaire entre les cultures et les religions. » Ce modèle européen, on peut également, semble-t-il, l'assimiler à un modèle politique autour d'un concept éclairant, celui de l'état de droit. À la nuance que cet État doit être interprété à la lumière des conceptions vaticanes, c'est-à-dire un État attentif à la dimension éthique et spirituelle et qui intègre cette dimension dans sa conception du droit. Je cite cette fois le discours de réception de l'ambassadeur du Venezuela du 25 août 2005 qui insiste sur cette définition spécifique d'un État de droit. Car alors, outre la communauté chrétienne, l'autre instrument d'une diplomatie silencieuse mais réelle, c'est dans la perspective de véritables racines juridiques de l'Europe, une tradition du droit. Une tradition du droit qui s'impose à la diplomatie des faits. Je cite cette fois le discours de réception de l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande. « Il existe un profond besoin aujourd'hui de retrouver une vision de la relation réciproque entre le droit civil et le droit moral, qui en plus d'être proposé par la tradition chrétienne, est également une partie du patrimoine des grandes traditions juridiques de l'humanité. » Un droit, donc, qui défend, comme fondement des libertés et barrage contre les dictatures, d'où les allusions récentes au communisme et au nazisme, la liberté religieuse. Et c'est le sens d'un discours fait aux nouveaux ambassadeurs du 18 mai 2006. Je cite « De même, la paix s'enracine dans le respect de la liberté religieuse, qui est un aspect fondamental et primordial de la liberté de conscience des personnes et de la liberté des peuples. Accepter une telle démarche personnelle et communautaire aura sans aucun doute des effets bénéfiques sur la vie sociale. » C'est donc à une communauté reformulée autour d'une histoire commune, de racines chrétiennes communes, mais qui n'interdisent pas le dialogue, que la charge d'une diplomatie pacifique et silencieuse incombe. En conclusion, on peut remarquer ceci. Le trône de Pierre n'est pas destiné aux doctes ni aux pieux, comme le dit un adage grégorien, mais aux prudents. La diplomatie du pape Benoît XVI, discrète mais non pas silencieuse, semble relever de cette appréciation. Une diplomatie qui n'entend pas frapper de grands coups, mais au contraire promouvoir des courants, des réseaux, des lobbies au sein des peuples. Une diplomatie qui s'appuie sur une communauté chrétienne ressourcée, à une mémoire purifiée, désormais consciente de son identité et de son originalité. Est-ce un hasard, d'ailleurs, si c'est le même Benoît XVI qui est la victime malheureuse et l'un des héros d'une pièce de théâtre de João de Bettencourt, Le pape kidnappé, diffusée en 1975 et qui invoque, via un improbable enlèvement, la figure pacifiste de Pie XII et son rôle dans la société. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre l'intervention de l'historien Gilles Ferragu, intervention qui s'intitulait « Les silences de Benoît XVI ». Canal Academy vous a ainsi présenté l'essentiel des interventions du colloque qui s'est tenu à la Fondation Saint-Gé-Polignac le 7 juin 2006 autour du « Papa Ratzinger » selon l'expression consacrée. Précisons que sur le site de Canal Academy, vous pouvez trouver l'intégralité du texte d'Hervé Yanou, correspondant du Figaro au Vatican, et l'intégralité du texte du cardinal Roger Etchegaray.